Henri de Régnier, l'obstiné. Ce fut un être charmant, singulier, terrible, et nulle femme ne me fit souffrir plus cruellement, avec un art plus raffiné et plus minutieux, et cependant aucune n'eut un plus doux et un plus pur visage que cette délicieuse créature, aux gestes harmonieux, à la voix tendre, qui semblait faite pour répandre autour d'elle le bonheur et la paix. Néanmoins, ce ne fut ni le calme ni la joie qu'elle apporta dans ma vie. Lorsque je la rencontrai, je n'en étais pas à ma première expérience d'amour. J'avais connu ce que l'on appelle les orages du cœur et les feux de la passion, ou du moins je croyais les connaître assez pour m'en garer désormais. Sans être las de l'amour, j'en souhaitais plutôt les plénitudes que les excès, les douceurs apaisantes que les torturantes ardeurs. Aussi, quand le hasard me mit en présence de Germaine, donnons-lui ce nom, si vous voulez, il me sembla que j'allais réaliser mon vœu secret et qu'une vie nouvelle s'offrait à moi, avec les promesses de tous ces enchantements. Celle que je menais alors se prêtait bien à la magnifique transformation que je lui entrevoyais. Je jouissais d'une complète liberté de cœur et de situation. Orphelin de bonheur, mes parents m'avaient laissé, avec une assez belle fortune, cet hôtel que j'habite encore aujourd'hui. Mon père, homme de solitude, l'avait choisi dans ce quartier, plus tranquille autrefois qu'il ne l'est à présent, et ma mère, femme de goût, l'avait meublé de belles vieilles choses qui l'ornent encore maintenant. Tableaux, tapisseries, bibelots, je n'ai touché à rien. Tout y est demeuré dans le même état. Je pourrais m'y croire au jour de ma jeunesse et au milieu de ma vie, si les chères et vivantes figures du foyer n'y étaient devenues les ombres mélancoliques du souvenir et les poignants fantômes du passé. Ce fut sur la fin d'une belle journée d'été que Germaine pénétra pour la première fois dans ce salon où nous sommes. La lumière était pareille à celle qui nous vient par ces hautes fenêtres, et il faisait ce même silence. Germaine daigna trouver bon air à mon logis. Elle en apprécia certains meubles et certains tableaux anciens. Elle portait une robe claire et un chapeau charmant. Elle était délicieusement belle, et avec elle, je crus voir entrer le bonheur. Je le lui dis. Elle m'écouta en souriant dans le petit miroir à main qui est là, posé sur cette table. Puis elle le replaça où elle l'avait pris, et longuement, tendrement, nos lèvres s'unirent en un baiser. Que de fois depuis lors Germaine ne franchit-elle pas cette porte? Que de fois son pas léger ne foula-t-il pas ce tapis? Que de fois nos lèvres avides ne s'unirent-elles pas? Je l'aimais d'une tendresse passionnée et d'une ardente adoration, et elle m'aimait aussi. Mais il y avait dans son amour une sorte d'appréhension maladive du temps où je ne l'aimerais plus. Ni mes serments, ni mes promesses, ni le pouvoir qu'elle exerçait sur mon cœur ne pouvaient la convaincre, ne viendrait pas un jour où je la quitterais, où je m'éloignerais d'elle, où je cesserais de l'aimer, où je l'oublierais. Et cette pensée que rien ne pouvait dissiper la torturait jusqu'à la terreur. Être oublié, oh, cette idée révoltait son orgueil. L'oubli. Ne plus être toute la vie, toutes les heures, toutes les minutes, ne plus être la présence vivante, ne plus être le visage nécessaire, la voix essentielle, diminuer peu à peu dans la mémoire, disparaître du souvenir, s'effacer, s'anéantir, l'oubli. Et comment être l'inoubliable? Est-ce que les baisers et les caresses ne s'oublient pas? Est-ce par le bonheur qu'il a donné qu'un être s'impose pour jamais à un autre être, par sa tendresse, par sa beauté? Que reste-t-il des heures d'ivresse, des noms de la chair et du cœur? L'oubli n'étant-il pas sur tout cela sa cendre impalpable et mortelle? Seule la souffrance est plus forte que lui et creuse dans les âmes des profondeurs douloureuses où il n'atteint pas et dont il respecte l'incurable irritation. Vous savez ce que peut souffrir d'une femme un homme qui aime passionnément? Et quelle supériorité elles ont sur nous au terrible jeu d'y réveiller les instincts les plus secrets et les sensibilités les plus cachées. Notre amour a besoin de foi et de certitude. Il a ses susceptibilités, ses exigences et ses vanités. Il est facile à inquiéter, à troubler, à blesser, à affoler. Ah, qu'il est aisé à une femme de torturer celui qu'il aime, de créer en lui le doute, l'anxiété, la jalousie, les colères, le désespoir et la détresse, toutes les souffrances, et de le conduire ainsi jusqu'à un point de lui-même où il tournoie en une sorte de panique aveugle. Ah, le beau jeu! Et avec quel raffiné, savant, précis et nuancé s'y livra cette ambitieuse, qui voulait ainsi s'assurer dans son orgueil contre les forces destructives de l'oubli. Et quand elle crut avoir achevé son œuvre, elle y ajouta la terrible surprise de disparaître soudain, sans un adieu, sans un regard, sûre d'avoir laissé derrière elle l'ineffaçable image de sa cruelle et mortelle beauté. Que vous dirais-je? Cette image, j'ai lutté contre elle pendant des mois et des années. J'ai voyagé, j'ai travaillé, j'ai cru aimer d'autres femmes. J'ai employé tous les moyens pour la chasser de mon souvenir, pour m'en affranchir, pour m'en délivrer. 20 fois j'ai cru que je succomberais, que je retournerais à mon supplice. Mais je savais bien que Germaine serait inexorable, et que l'abandon où elle m'avait laissé faisait partie de son impitoyable volonté de m'asservir à jamais à elle par la souffrance. C'était de moi seul que je devais attendre ma guérison et mon salut, et cette guérison, ce salut, il n'était que dans cet oubli dont cette femme avait voulu si cruellement, si orgueilleusement m'interdire le recours et le bienfait. Ce furent d'atroces années jusqu'au jour où, tout à coup, une sorte de voile s'interposa entre moi et ce douloureux passé. Soudain, il me sembla entrer dans un grand silence, dans un grand vide, dans un grand calme. Mes yeux se fermèrent sur ce qui avait été ma vie et se rouvrirent peu à peu à une vie nouvelle. Je repris goût à l'existence. De nouveau, je goûtais le charme des fleurs, la beauté des visages, l'agrément et la joie des choses. Germaine était plus morte dans mon souvenir que si elle avait été couchée au tombeau. Elle était tombée dans cet oubli qu'elle redoutait tant. J'étais presque heureux et je le serais encore si... Tenez, vous voyez ce miroir qui est là, sur cette table, près de cette lettre? C'est celui où Germaine aimait à se regarder en souriant quand elle avait suscité en moi une de ces souffrances dont elle suivait sur mon visage ravagé les traces douloureuses. Et c'est un de ces visages, un de mes visages d'autrefois, que j'ai revu lorsque par hasard j'élevais à la hauteur du mien cette glace magique et terrible. Alors, j'ai senti que ce voile d'oubli dont je vous parlais tout à l'heure venait de se déchirer et que l'impitoyable torture que j'avais jadis soufferte allait renaître des cendres du passé. Oui, maintenant, quand j'évoquerai du fond de ma douleur l'image de celle qui ne voulut pas être oubliée, ce ne sera pas une vivante qui m'apparaîtra, mais son fantôme acharné. Cette lettre qui est là m'apprend que Germaine de S. est morte hier, alors même où je la retrouvais dans ce miroir. L'éternelle torturée qu'elle a voulu que je fusse, et qu'au-delà de la mort, elle a servi encore à son souvenir.